Bonjour et bienvenue dans l'émission. Claire Martin avec vous, comme toujours, aux côtés de Nicolas Moreau.
Salut à tous. Ce qu'on a retenu des dernières 24 heures, c'est une journée où la sécurité a vacillé sur plusieurs fronts, où l'IA accélère en faisant peur à ses propres architectes et où des projets libres ont dû se battre, parfois littéralement, pour continuer d'exister.
Oui, et entre tout ça, l'écosystème open source continue de livrer des petites merveilles d'ingénierie. L'Europe a franchi un pas historique dans l'espace et même l'actualité a trouvé le moyen d'être drôle. On commence fort avec deux affaires de sécurité qui, à des échelles très différentes, montrent ce qui arrive quand une abstraction devient une surface d'attaque.
La première, c'est un article sur Arexive, et franchement, c'est le genre de papier qui devrait faire tiquer quiconque gère une base de données vectorielle. Les auteurs présentent la première traduction non supervisée d'embedding entre espaces vectoriels.
Il faut décomposer ça, parce que derrière le jargon, il y a une idée redoutablement simple. Les embeddings, ce sont ces représentations de textes, d'images, de documents, sous forme de vecteurs de nombres. Toutes les applications modernes de recherche sémantique, de RAG, de recommandations reposent là-dessus. Et l'hypothèse de sécurité implicite de beaucoup de gens, c'était « ces vecteurs sont des nombres quasi aléatoires, ils ne veulent rien dire par eux-mêmes, donc même si une base fuit, on ne récupère pas grand-chose d'exploitable ».
Et cet article casse exactement cette hypothèse. La traduction non supervisée, ça veut dire qu'on peut apprendre à faire correspondre un espace d'embedding à un autre sans données alignées, sans paires connues. Concrètement, si vous avez accès à un échantillon de vecteurs d'un modèle que vous contrôlez, vous pouvez apprendre la correspondance vers l'espace d'un autre modèle, et donc réinterpréter des vecteurs qui ne vous étaient pas destinés.
Et la conséquence directe, c'est ce que les auteurs appellent des attaques d'inférence d'attributs sur les bases de données vectorielles. Autrement dit, à partir des vecteurs stockés, un attaquant peut déduire des attributs des données d'origine, peut-être pas reconstituer le document entier, mais deviner des caractéristiques sensibles, des catégories, des propriétés du contenu.
Ce qui me frappe, c'est que ça touche toute une catégorie d'infrastructures qui se sont construites très vite. Les bases vectorielles sont devenues des briques standards, on y stocke parfois des données clients, des documents internes, des contenus de messagerie. Et une partie du modèle de menace reposait sur l'opacité du format.
Exactement. C'est une leçon classique en sécurité, une propriété qu'on croyait structurelle. L'illisibilité des embeddings s'avère être juste un état temporaire de la recherche. Aujourd'hui, la traduction existe, demain elle sera meilleure. Et un parallèle amusant avec la cryptographie, pendant des décennies, les gens ont traité l'obscurité comme de la protection et à chaque fois la recherche a rattrapé.
Ce qui reste ouvert, et c'est important de le dire, c'est le périmètre réel. On ne sait pas, depuis l'article, quels cas d'usage sont pratiques en conditions réelles, quelle précision on obtient, quelle taille d'échantillon il faut. L'article démontre la faisabilité, la mise à l'échelle contre des déploiements réels, c'est une autre histoire.
Mais le signal, lui, est clair. Si vous exploitez une base vectorielle, il faut désormais la traiter comme contenant des données sensibles au même titre que la base relationnelle derrière. Chiffrement au repos, contrôle d'accès strict, peut-être revoir ce qu'on y stocke tout court.
Passons à la deuxième affaire, qui elle est très concrète et très coûteuse. Des attaquants ont retiré environ 4000 bitcoins du wallet de la Liquid Federation, à peu près 320 millions de dollars, en passant par une clé PAC de Sideswap.
Et la conséquence immédiate, la sidechain Liquid a été mise en pause. Pour ceux qui connaissent moins, Liquid est une sidechain de Bitcoin, une chaîne parallèle gérée par une fédération, pensée pour des transferts rapides et des échanges entre plateformes. Le modèle de sécurité repose sur la fédération, un ensemble de signataires qui contrôlent conjointement les fonds.
Et c'est là que le détail de l'attaque est intéressant. Ce n'est pas une faille cryptographique dans Bitcoin lui-même. Ce n'est pas une compromission de la fédération dans son ensemble. C'est une clé PAC, une clé d'autorisation liée à Sideswap, un service de swap sur Liquid qui a suffi à siphonner 4000 Bitcoins.
Ça pose une vraie question de conception. Quand vous avez un modèle multisignature, chaque service externe qui détient une clé, même partielle, même spécialisée, devient un point de défaillance. La sécurité d'un système fédéré n'est pas plus forte que le maillon le plus compromettable de sa périphérie.
Oui, et historiquement, c'est le même schéma qu'on voit depuis 10 ans dans l'écosystème crypto. Ce ne sont presque jamais les primitives qui cassent, ce sont les composants d'orchestration, les bridges, les services de swap, les intégrations. Le protocole de base est solide, la plomberie autour fuit.
Et ici, l'ampleur est considérable. 320 millions de dollars sur un wallet de fédération, c'est le genre d'incident qui remet en question la confiance dans le modèle même. Ce que l'on ignore encore, c'est crucial. Le périmètre exact de l'impact, et surtout s'il y a un chemin de récupération des fonds. Une sidechain en pause, ça veut dire que tout l'écosystème de services branché dessus est à l'arrêt en attendant.
Il y a deux leçons à emporter de ce bloc sécurité. La première, les données dérivées, comme les embeddings, doivent être traitées comme sensibles. La deuxième, la sécurité d'un système fédéré se joue autant sur ses périphéries que sur son noyau.
Et ça nous amène naturellement au sujet suivant, parce que si la sécurité échoue, l'IA pose, elle, des questions de contrôle d'une autre nature. OpenAI a fait deux annonces cette semaine et elles se lisent ensemble.
La première, OpenAI affirme avoir atteint son objectif d'interne de recherche automatisé dès septembre 2026 et elle fixe une nouvelle cible, un chercheur IA autonome d'ici mars 2028.
Décomposons. Un interne de recherche automatisé, ça veut dire un système capable de faire le travail d'un doctorant ou d'un jeune chercheur, lire la littérature, exécuter des expériences, produire des résultats. Et l'étape suivante, le chercheur autonome, c'est un système qui définirait lui-même ses questions de recherche et ferait avancer la science, ou du moins la recherche chez OpenAI, sans supervision humaine constante.
La deuxième annonce, c'est Jacob Pachocki, le chef scientifique d'OpenAI, qui met en garde. La montée rapide de l'intelligence machine nécessite une coordination internationale et des mécanismes de protection renforcés.
Et c'est là que ça devient fascinant, parce que ce sont les mêmes mains qui accélèrent et qui tirent la sonnette d'alarme. Pachocki n'est pas un critique extérieur, il dirige la recherche chez OpenAI. Quand il appelle à une coordination internationale, ça veut dire que les gens les mieux informés du rythme réel estiment que la trajectoire dépasse ce que des acteurs nationaux isolés peuvent encadrer.
Il y a une tension à nommer honnêtement. D'un côté, une entreprise annonce des jalons agressifs, avec des dates précises, mars 2028. De l'autre, son chef scientifique dit qu'il faut des garde-fous internationaux. Est-ce que c'est de la lucidité ? Est-ce que c'est un appel qu'on lance précisément parce qu'on a l'intention d'aller vite ? Les deux ne s'excluent pas.
Et sur la crédibilité des annonces, il faut garder un œil critique. Atteindre son objectif, c'est une auto-évaluation. Qu'est-ce qui définit précisément un interne de recherche automatisé ? Qui vérifie ? Ce sont des affirmations d'entreprise sur ses propres produits, pas des résultats évalués par des tiers. La question de savoir comment on mesurerait objectivement un chercheur autonome reste entièrement ouverte.
Et justement, il y a un contrepoint délicieux dans l'actualité. Brian Cantrill, que chacun connaît pour sa plume aussi affûtée que son code, a publié un texte sur les posts LinkedIn rédigés par des LLM. Son verdict, c'est du slop, du contenu pâteux, facilement détectable, et ça mine l'authenticité de celui qu'il publie.
Ce qui est savoureux, c'est la convergence. D'un côté, des modèles capables, selon leurs créateurs, de faire de la recherche. De l'autre, un ingénieur respecté qui observe que, dans l'usage courant, ces mêmes modèles produisent du texte que tout le monde reconnaît au premier coup d'œil et qui décrédibilise l'auteur.
Mais attention, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Cantrill ne dit pas que les modèles sont incapables. Il dit que l'usage paresseux, publier tel quel ce que la machine a écrit pour se donner une présence publique, est à la fois repérable et nuisible. L'authenticité devient une ressource rare. Si tout le monde publie du texte généré, la signature personnelle, l'opinion qui engage, redeviennent précieuses.
Et ça soulève une question qui traverse les deux sujets. Dans un monde où l'IA écrit, et peut-être demain cherche, qu'est-ce qui reste du crédit qu'on accorde à une voix ? On va peut-être assister à une distinction de plus en plus nette entre ce qui est produit et ce qui est signé.
Du contrôle des systèmes intelligents, passons à un sujet plus sombre, ce qui arrive quand des États décident que des services en ligne sont des ennemis. Deux nouvelles cette semaine illustrent la même pression, avec deux issues opposées.
La plus grave d'abord, le collectif Autistici Flash Inventati ferme, après 25 ans de service, et la raison est brutale. Le collectif a été désigné organisation terroriste mondiale.
Pour contextualiser, AI, c'est un pilier de l'hébergement militant en Europe. Depuis l'an 2000 environ, le collectif fournissait mails, listes de diffusion, hébergement à des militants, des collectifs, des associations, des projets politiquement engagés. 25 ans, c'est une génération entière d'activisme numérique qui s'appuyait sur cette infrastructure.
Et ce qui fait peur, ce n'est pas seulement la fermeture, c'est le mécanisme. Une désignation terroriste frappe l'infrastructure entière, pas des individus jugés pour des faits précis. Tous les services, donc tous les usagers, y compris ceux qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit, se retrouvent coupés d'un coup. C'est le principe du châtiment collectif appliqué à l'hébergement.
Ça pose une question existentielle pour tout l'hébergement militant. Si héberger des dissidents, des anticapitalistes, des défenseurs des migrants peut vous valoir une désignation terroriste, alors aucun hébergeur engagé n'est à l'abri. L'effet pourrait être une autocensure générale des plateformes, qui refuseront des clients risqués de peur d'être frappés à leur tour.
Face à ça, l'autre histoire, celle de Neater, et elle se termine beaucoup mieux. Neater, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une interface alternative libre pour Twitter-esque, sous licence AGPLv3, qui permet de consulter le réseau sans compte, sans tracker. Et XCorp a envoyé des lettres de cease and desist le 24 août 2026.
Des demandes de cessation et d'abstention classiques, cesser d'exploiter le service. Et pendant un temps, le projet a été au point mort. Mais la semaine dernière, Neater et son instance X-Consel ont repris du service, et le README du projet le confirme. Le projet continue, après avoir pris conseil juridique.
C'est un détail qui a son importance, après consultation juridique. Ça veut dire que l'équipe a évalué ses risques réels, ce qu'elle pouvait légalement faire, ce qu'elle ne pouvait pas, et a décidé de continuer en connaissance de cause. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est une décision éclairée.
Et les deux histoires se répondent. Dans un cas, une infrastructure meurt sous le coup d'une désignation terroriste, sans débat judiciaire apparent. Dans l'autre, un projet fait face à des lettres d'avocats, consulte et décide que la loi, appliquée honnêtement, lui laisse un espace. La ligne rouge entre anonymat, légalité et répression se resserre partout, mais elle n'a pas encore tout absorbé.
La question ouverte, c'est de savoir où sera la ligne demain. Le cas AI montre qu'une désignation peut tout emporter d'un coup. Le cas Niter montre que tenir juridiquement, c'est encore possible. Les prochains projets alternatifs vont devoir se doter de conseils juridiques dès le premier jour, pas après la première lettre d'avocat.
Heureusement, tout n'est pas répression et pression légale. Le monde du logiciel libre, lui, avance à pleine vitesse et on a une rafale de nouvelles qui montre sa vitalité sous toutes ses coutures. Des systèmes d'exploitation historiques, du matériel Apple, des licences et des petits outils d'ingénierie absolument délicieux.
Commençons par NetBSD parce qu'il y a deux nouvelles. La première, NetBSD 9 mai est sortie et c'est la dernière version de la branche 9.x. La branche NetBSD Mire 9 arrive en fin de vie et les utilisateurs sont invités à migrer vers 11.0. 11 janvier, ou la future 10 février.
Un rappel de migration donc. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi s'attacher au sort de NetBSD en 2026, la deuxième nouvelle est une réponse. La page recherche du projet rappelle son usage par la NASA Lewis pour du TCP satellite, le travail de CAM sur IPv6 et IPsec, et le record de vitesse terrestre d'Internet de Sunet sur Internet 2.
Ce dernier est mon préféré. Sunet a établi un record de débit sur Internet 2 en utilisant NetBSD, une performance réseau à l'état de l'art. Et le travail IPv6 de CAM, c'est littéralement du code qui a façonné l'Internet moderne. Une bonne partie de l'implémentation de références IPv6 vient de là.
Le point intéressant, c'est le rapport entre discrétion et importance. NetBSD ne fait jamais de vagues grand public, mais son portabilité extrême, son code propre, en ont fait l'ossature silencieuse de beaucoup de choses. La leçon pour la migration, les branches ne vivent pas éternellement, et la migration vers 10 février ou 11.x, autant la planifier maintenant que la subir plus tard.
Enchaînons sur du matériel plus récent. Asahi Linux supporte désormais les Macs de la série M3 en mode expert. Pour rappel, Asahi, c'est le projet qui fait tourner Linux nativement sur les Macs à puce Apple. Un tour de force d'ingénierie inverse.
Avec des limites honnêtes, et c'est ce que j'apprécie dans leur communication. La mise en veille ne fonctionne pas encore, pas de HDMI, et le pilote GPU, qui passe par le contrôleur d'affichage DCP, n'est pas prêt. Et le Mac Studio M3 Ultra n'est pas supporté du tout pour l'instant.
Le mode expert, ça veut dire qu'on s'adresse aux utilisateurs qui savent ce qu'ils font, qui accepte l'incomplet. C'est la méthode habituelle du projet, publier tôt, documenter ce qui marche et ce qui ne marche pas, et élargir progressivement. Le M3 rejoint donc la lignée M1 et M2, avec le même chemin progressif vers la maturité.
Le point commun avec NetBSD, c'est la longévité de l'effort. Ces projets ne sortent pas des produits, ils construisent des infrastructures sur des années, brique par brique, avec des documents qui disent clairement ce qui manque.
Et parlant d'infrastructures juridiques cette fois, Henri Bergius a annoncé qu'il changeait sa licence par défaut, passant de MIT à UPL 1.2, une licence copyleft forte qui ferme la faille SAS.
Alors la faille SAS, ou l'IPOL SAS, c'est le débat classique du copyleft. Avec une licence permissive comme MIT, n'importe qui peut prendre votre code, le modifier et l'exploiter comme service en ligne sans jamais publier les modifications. Parce que la licence n'impose la distribution des sources que si vous distribuez le logiciel, or un service en ligne n'est pas distribué.
Et EUPL, la licence publique de l'Union européenne, est conçue pour fermer cette brèche. Elle oblige au partage des modifications dans des conditions beaucoup plus exigeantes, y compris dans un contexte d'usage en réseau. Bergius, qui est un développeur de longue date de l'écosystème, dit simplement « J'ai donné 20 ans sous licence permissive. Je constate que le modèle SaaS absorbe tout sans rien rendre. Je change de défaut. »
C'est un geste individuel, mais il est symboliquement lourd. On est dans une période où le débat sur ce que le logiciel libre doit aux entreprises qui l'exploitent sans contribuer est rouvert un peu partout. Chaque changement de licence par défaut, comme celui-là, participe à faire bouger les normes.
Et maintenant, mes petits plaisirs de la semaine, trois outils qui m'ont fait sourire d'admiration. Le premier. Anubis a livré son système de preuve de travail basé sur WebAssembly pour détecter les bots. Un an de travail, des centaines de commits et une réécriture partielle en Rust.
Anubis, pour situer, c'est l'outil apparu à l'origine pour protéger des projets libres du scrapping massif par les crawlers d'entraînement d'IA qui mettaient des serveurs à terre. Le principe, avant de laisser passer, demander au client de résoudre une petite preuve de travail, ce qui coûte négligeable pour un humain et très cher à grande échelle pour un bot.
Et le passage à WebAssembly, c'est le détail technique intéressant. Exécuter la vérification à WASM, c'est plus difficile à contourner ou à simuler qu'un simple script JavaScript. Et la réécriture partielle en Rust montre que le projet a pris de la maturité. Un an et des centaines de commits, ça veut dire du vrai travail d'ingénierie, pas un patch du week-end.
Le deuxième outil, Mador, 80 lignes de JavaScript, environ 855 octets une fois minifiés, qui rendent le DOM réactif. Le mécanisme repose sur le proxy de JavaScript, avec une structure en tuple à deux éléments, et ça fournit la réactivité, le suivi des dépendances, l'interface avec les sélecteurs CSS.
855 octets, là où les frameworks de réactivité moderne pèsent en dizaines ou centaines de kilooctets. Évidemment, la comparaison est injuste, Mador ne fait pas tout ce que fait un framework complet. Mais c'est une démonstration. La réactivité, c'est fondamentalement une idée simple. Intercepter les lectures et écritures, savoir qui dépend de quoi, et mettre à jour. Le reste, c'est de l'ergonomie.
Et le troisième, mon préféré peut-être, Austin Henley a écrit un interpréteur Python en 1001, non, en 1124 octets de C. Non, 1024 octets, 1024 octets exactement. Et il gère def, if for, print et l'indentation.
L'indentation, c'est le détail qui tue. Le défi implicite, c'est que Python a une syntaxe sensible à l'indentation, donc l'interpréteur doit tout kinéser non pas seulement les caractères, mais la structure du code par les espaces. Faire ça, plus des fonctions, des conditions, des boucles, dans un kilooctet de C, sans macro, c'est du golf de code au niveau maîtrise.
Et ces trois projets racontent la même chose sous trois angles. Anubis résout un vrai problème opérationnel avec du vrai travail d'ingénierie. Mador et l'interpréteur Henley rappellent qu'on peut comprendre un concept en l'écrivant soi-même à taille minimale. C'est le meilleur de la culture du logiciel libre, du sérieux et du jeu, côte à côte.
Et du jeu, il y en a aussi dans le dernier bloc du jour, qui mêle espace, quantique et culture numérique. Commençons par la plus grande nouvelle. Isar Aerospace a atteint l'orbite dès son deuxième vol de sa fusée Spectrum depuis Andøya en Norvège, et a déployé des satellites.
Il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Le deuxième vol d'une fusée, et il atteint l'orbite. Dans l'histoire de l'astronautique, la norme c'est plutôt d'échouer plusieurs fois avant d'y arriver. SpaceX a mis des années et plusieurs échecs avant son premier succès orbital. Atteindre l'orbite au deuxième essai, c'est un exploit.
Et le lieu compte aussi, Andøya, en Norvège, c'est un pas de tir au-dessus du cercle polaire. Et Isar est une entreprise européenne allemande. C'est ce qui fait de ceci la première mission orbitale commerciale européenne. L'Europe dispose désormais d'un lanceur privé opérationnel, lancé depuis son propre sol.
Le contexte, c'est la dépendance de l'Europe en matière d'accès à l'espace et le retard sur les lanceurs réutilisables américains et chinois. Une entreprise européenne qui démontre l'orbite au deuxième vol, ça change la donne des options disponibles pour les agences et les opérateurs satellites du continent.
Restons dans la recherche, mais côté quantique cette fois. Un cours de 12 semaines, Quantum Oracle Engineering, prépare à l'IPLE Quantum Week 2026 à Toronto. Au programme, la construction d'oracles quantiques, la réversibilité et la vérification.
Pour expliquer pourquoi ces trois sujets-là. Un oracle quantique, c'est le morceau de circuit qui encode un problème dans un algorithme quantique. Et construire un oracle, ça oblige à penser en porte réversible, parce que les calculs quantiques doivent à la base être inversibles. C'est un renversement mental complet par rapport à la programmation classique où l'on détruit l'information en permanence. Et la vérification, c'est prouver que votre oracle fait bien ce que vous croyez, ce qui est notoirement difficile.
Un cours comme celui-là, c'est le signe que le domaine passe de la curiosité de laboratoire à la formation d'une main-d'œuvre. On ne fait pas 12 semaines de cours sur l'ingénierie des oracles si personne ne s'en sert dans des projets réels.
Et le lien avec l'IA qu'on évoquait tout à l'heure est intéressant. Dans les deux cas, on forme des gens à des technologies dont on ne maîtrise pas encore toutes les conséquences. Dans un cas, on s'inquiète des garde-fous, dans l'autre, on construit les compétences.
Baissons d'un cran vers le quotidien, GraphenOS, le système d'exploitation axé sur la sécurité pour téléphone, a fait une refonte complète de son application messagerie avec l'interface Android Compose. Et surtout, une nouvelle fonction de collage sécurisé du presse-papier.
Le collage sécurisé, c'est un détail qui a son importance. Le presse-papier est un endroit notoirement sensible. Tout ce que vous copiez y traîne, mot de passe, adresse, code de vérification. Les systèmes récents ajoutent des protections, et GraphenOS en ajoute une couche propre à sa messagerie. Vous contrôlez explicitement ce que vous autorisez l'application à coller, plutôt que de laisser un accès permanent.
C'est de la sécurité d'usage, pas de la sécurité de laboratoire. Le genre de choses qui protègent réellement les gens au quotidien, appliquées à l'application qu'ils ouvrent le plus souvent.
Et maintenant, la culture numérique, avec un fil conducteur que j'ai trouvé charmant, la créativité dans la contrainte. Une chronique du DUB, écrite par une doctorante, défend l'idée que la créativité existe dans les contraintes, pas malgré elle. Elle l'appelle le modèle boîte à crayons.
Le modèle boîte à crayons, développons-le un peu, parce qu'il est joli. L'image, c'est qu'une boîte de crayons ne vous limite pas, elle vous donne des couleurs. Sans contrainte, face à l'infini des possibilités, on est paralysé. Avec une contrainte, un format, une palette, une règle, on est libéré. La contrainte devient un partenaire de création, une structure sur laquelle s'appuyer.
Et il y a un exemple vivant, en ligne. Le site de Rob Weichert est fermé le dimanche, littéralement. Si vous visitez son site un dimanche, vous tombez sur un message l'invitant à aller faire autre chose, parce que le site observe le Bildschirm frei, l'absence d'écran.
Et ce n'est pas une lubie isolée, on trouve des précédents comparables, le site néerlandais Babypark, NL, et le site du parti politique néerlandais SGP sont fermés le dimanche, et BH Photo, le grand magasin d'électronique de New York, ferme aussi sa boutique en ligne le samedi en raison du sabbat.
Ce que j'aime dans la logique de Weichert, c'est que la contrainte n'est pas technique, elle est philosophique. Il applique à son propre site web la règle qu'il veut pour sa vie. Et ça résonne avec la chronique du dub, la contrainte. Ici, l'absence d'écran un jour par semaine n'appauvrit pas, elle redonne de la valeur au reste.
Et dans le même espace culturel, une voix plus inquiète. Ed West, dans une chronique, revient sur le livre de James Marriott, The New Dark Ages, qui impute le déclin de l'alphabétisation et de la lecture plaisir au téléphone et à la télévision.
Le terme « nouvel âge sombre » est fort, mais le constat sous-jacent est documenté. La lecture longue décline, chez les jeunes notamment, remplacée par des formats courts et vidéo. Et les défenseurs de ce diagnostic pointent la responsabilité des écrans de distraction.
Il y a un débat honnête à avoir là-dessus. Est-ce que le téléphone a détruit la lecture, ou est-ce que la lecture était déjà en recul et le téléphone n'a fait qu'accélérer ? Marriott et West penchent pour la première hypothèse. Les contre-arguments existent. La lecture n'a peut-être pas disparu, elle s'est déplacée, les formats ont changé. Mais le déclin de la lecture approfondie et prolongée est difficile à contester.
Et le parallèle avec la chronique du 2B est saisissant. D'un côté, des gens qui imposent volontairement des contraintes à leur usage des écrans et s'y épanouissent. De l'autre, un diagnostic selon lequel des contraintes absentes, l'illimité de l'attention que les plateformes capturent, détruisent une capacité. La contrainte choisie nous construit, l'absence de contrainte nous consomme.
Et pour finir sur une note légère, parce que l'actualité tech sait rester drôle, un utilisateur raconte que son QubiTorrent, selon ses mots, a échappé à son bac à sable, a téléchargé des médias appartenant à un studio et que son serveur Jellyfin a tranquillement ajouté le tout à ses bibliothèques.
Pour les non-initiés, QubiTorrent est un client torrent. Jellyfin, un serveur multimédia maison qui organise automatiquement les fichiers qu'on lui confie. Le gag, c'est l'effet de composition. Le torrent se télécharge tout seul, Jellyfin détecte les fichiers et les intègre comme si de rien n'était. Et l'utilisateur assiste, impuissant et amusé, à son propre hommage involontaire au piratage.
C'est le genre d'histoire qui n'existe que dans la communauté du logiciel libre. Une chaîne d'outils autonomes bien conçus, qui fonctionne si bien qu'elle produit un résultat involontaire et comique. On rit, on partage, et personne n'y voit une leçon de sécurité, même si, secrètement, elle en est une.
Voilà, on a fait le tour d'une journée dense. Des embeddings qui ne sont plus opaques, des centaines de millions évaporés sur une sidechain, une IA qui s'automatise en appelant elle-même à la vigilance, des hébergements militants qui tombent et des projets alternatifs qui tiennent, un lanceur européen en orbite et quelques kilooctets de code qui donnent le sourire.
On vous retrouve prochainement pour une nouvelle sélection. D'ici là, prenez soin de vos vecteurs, de vos clés et lisez un livre, un vrai. Bonne fin de journée à tous.